Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, c'est le retour de la librairie francophone avec un programme spécial dans une version confinée. C'est une nouvelle formule pour ces circonstances particulières, mais nous sommes avec vous et nous allons vous faire voyager avec des reportages et aussi des invités. Nous irons à Beyrouth avec la grande poétesse franco-libanaise Vénus Corrigata, un entretien sur les lieux de son enfance réalisé en 2010 et sa réaction 10 ans plus tard avec une évocation de son nouveau recueil de poèmes paru chez Mercure de France. Nous rendrons hommage à Albert Uderzo avec les témoignages exclusifs à la radio de Jean-Yves Ferry, le nouveau scénariste d'Astérix, et du grand artiste Enki Bilal. Chaque semaine, et c'est une nouvelle séquence, nous donnerons la parole à un éditeur avec le conseil d'un roman classique de sa maison d'édition. Aujourd'hui, Isabelle Gallimard sera avec nous pour cette première. Et puis un autre voyage, direction Liège, sur les traces de Georges Simenon, avec l'historien Benoît Denis, entretien en déambulation sur la musique des films de Tarantino.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont bien sûr avec nous. Avant de les rejoindre, un mot pour vous dire que toute l'équipe de la librairie francophone s'est mobilisée depuis plusieurs jours pour cette reprise, avec l'implication et les décisions des directions de toutes les radios qui diffusent ce programme. Merci à eux, ils sont d'un professionnalisme hors pair. En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles qui est avec nous. Au Canada, Josiane Letourneau est libraire à Montréal dans la librairie du Square. Bonjour Déborah, bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Pour la Suisse, Dominique Bressoux est fidèle au poste dans sa librairie Une Petite Prose à Boudry. Et la France est représentée par la Martinique avec Anne-Rosine Vosa, libraire du Papillon Bleu à Fort-de-France. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous toutes les quatre. Vous le savez, nous voulons soutenir les librairies indépendantes en ces moments difficiles. De nombreux libraires lancent d'ailleurs en ce moment des initiatives pour continuer à vendre des livres. Nous allons nous en faire l'écho autant que possible. Certains proposent des services de vente à emporter en restant dans sa voiture, par exemple. Et Dominique Bressoux, en Suisse, toutes les librairies sont fermées, mais il y a la boîte à lait. Qu'est-ce que c'est la boîte à lait ?
Alors la boîte à lait, c'est une très grande boîte qui se trouve en dessous des boîtes à lettres, toutes bêtes. Et ça permet de mettre des gros paquets. Et c'est extrêmement pratique pour nous autres libraires, n'est-ce pas, dans ces circonstances. En fait, ici, il y a Livre Suisse, l'association des éditeurs et des libraires, qui a fait une liste, dont je ne sais pas si elle est exhaustive, des librairies assurant un service de livraison, même si la librairie n'est pas membre de l'association. Alors, on se débrouille, mais bien sûr, il n'y a pas de nouveauté, ça pèse assez lourd, et on vit plus ou moins sur les stocks de nos distributeurs. Mais on va dire que jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va. Il faut tenir. Vous avez raison, Dominique. La Martinique est confinée, Anne-Rosine Vosa, et vous avez une idée, un projet pour continuer à vendre des livres.
Alors, je me suis rendu compte avec horreur qu'il y avait une très grande frustration ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchaient des livres et je pouvais pas les vendre. Et une idée a germé. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un site de vente en ligne. Et le projet est à l'étude et j'espère pouvoir y arriver assez rapidement.
On espère aussi, vous nous tiendrez bien sûr au courant et on informera les auditeurs de la Martinique et des Antilles de votre initiative. À Montréal, Josiane Letourneau, comment ça se passe du coup pour vous?
Eh bien, on peut dire qu'environ 80% des librairies indépendantes vendent encore du livre papier via la commande Internet. Alors, il y a la plateforme transactionnelle Libraire qui permet aux clients des librairies indépendantes de faire leurs achats de livres papier, numériques et audio directement sur la page de leur librairie préférée. Et la livraison se fait par la poste ou dans quelques cas, en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est en vélo ou en voiture. En ce moment, la réponse de la clientèle est vraiment exceptionnelle et le site Les Libraires bat tous les jours des records de vente, alors on lâche pas.
On ne lâche pas et on achète ces livres, effectivement, chez les libraires indépendants, autant que possible, même en ces circonstances. Quelle initiative en Belgique, Déborah Damblon ?
Alors chez nous, Emmanuel, au début, ça a été un peu compliqué, les Belges, hein, se mettre d'accord. Donc il y a eu un petit clivage, il y en a certains qui voulaient suivre l'exemple français, qui recommandent de ne pas faire de livraison pour protéger au maximum les employés.
et la collectivité. Et puis, il y en a d'autres qui ont insisté pour pouvoir faire leur métier, vous voyez, pour garder notre rôle social, notre rôle de pourvoyeur de lecture. Et on l'a fait pour la plupart. Et ça marche parce qu'il y a beaucoup de commandes. Alors, numériquement, c'est pas rentable, hein, il faut bien le dire, parce qu'il faut travailler 5 fois plus pour le même chiffre d'affaires. Mais quand même, ça donne de la trésorerie. Et cette trésorerie, ça sera un ballon d'oxygène au moment du déconfinement. Donc, ça vaut la peine parce qu'il faut pas oublier qu'il faut continuer à payer les frais fixes. Et à l'instar du reste du monde, ben, le modèle de librairie va devoir changer, je crois.
Il y a des choses qui vont forcément changer, en bien, je l'espère en tout cas. Si vous êtes libraire et que vous voulez nous parler d'une initiative, eh bien contactez-nous par le biais de notre site internet ou les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad. Merci à toutes les quatre, vous restez bien sûr avec nous. Avant de partir rejoindre la poétesse franco-libanaise Vénus Kourigata, voici le son de la francophonie, une petite nouveauté qui vous fait découvrir la musique qui est numéro 1 en ce moment dans un pays francophone. Cap sur le Canada et le Québec plus précisément aujourd'hui, c'est le groupe Les Cowboys Fringants qui est numéro 1 partout avec l'Amérique pleure.
Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bar, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou.
Les Cowboys Fringants, musique francophone numéro 1 au Québec en ce moment, avec le nouvel album Les Antipodes et ce titre L'Amérique pleure. Et bonjour Vénus Kourigata.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être dans cette librairie francophone, nouvelle formule et inédite en cette période compliquée. Comment allez-vous tout d'abord Vénus ?
Je vais bien tant que je suis confinée chez moi et que je n'ai pas encore le virus, c'est très bien.
Vous êtes une grande écrivaine et poétesse franco-libanaise, couronnée par de nombreux prix internationaux. Depuis plus de 50 ans, vous explorez la condition humaine, l'âme humaine, marquée par les guerres, la guerre du Liban en particulier. Avant d'écouter un reportage réalisé avec vous à Beyrouth, parlons de votre dernier recueil de poésie, Demande à l'obscurité, paru début mars chez Mercure de France. La poésie vous a toujours accompagnée, Vénus. Qu'est-ce qu'elle vous procure, cette poésie ?
Elle me fait léviter au-dessus du réel. Toujours, chaque fois que j'ai un problème, un gros problème dans ma vie, une rupture, un décès, un divorce, j'en ai eu. Et j'étais sauvée par la poésie. Sauvée, enfin, le moment où j'écris, je suis sauvée. Quand ça ne va pas, même mes enfants me disent « Écris un poème ». Tu vas voir, tu vas t'en sortir.
Le sujet de ce nouveau recueil, c'est la guerre. Avec ce personnage Mansour l'épicier, il a fui son pays, mais il finira par y retourner, car il a échoué à Paris. En fait, il n'a pas su gérer son épicerie dans les règles occidentales.
Exactement, nous tous, nous venons là, nous sommes un peu délirants, nous sommes habitués à la manière, loufoque de gérer nos affaires. Et on vient ici, on trouve que tout est mesuré, il faut tout le temps montrer patte blanche pour ne pas avoir des contraventions, pour ne pas avoir des redressements, pour avoir tout ça. Donc le pauvre Mansour, il se retrouvait devant ça et il a préféré retourner à la guerre. Au Liban, avec la guerre civile.
Alors il retourne dans son pays, le Liban, toujours en guerre, mais il se sent plus libre. Il vaut mieux être pauvre mais libre que riche et entravé, Vénus.
C'est vrai, il n'y a pas de plus beau que la liberté. La liberté, c'est... vous vous donnez un pays avec la liberté, même si vous ne disposez que de 2 mètres carrés. Vous êtes libre, vous avez un pays, vous êtes dans un pays libre. Terrible quand les lois vous entravent de tous les côtés. Vous n'êtes plus, vous ne pouvez même plus penser, vous êtes tout le temps en train de penser, est-ce que je suis en règle, est-ce que j'ai répondu comme il faut à mes impôts, je me suis trompée. L'administration peut faire peur aux gens.
Tout au long de votre vie et de votre œuvre, vous avez questionné le sens de la liberté. La privation des libertés, c'est ce qui est le plus intolérable en fait.
Oui, parce que même quand on vit dans une ville, qu'on peut sortir, qu'on peut venir, et que tu es tout le temps entravé par des lois, par des comme maintenant, tu peux pas sortir, c'est terrible, c'est comme si tu étais en prison, c'est une prison, la ville devient une prison. Et même ton cerveau devient une prison, tu ne peux plus penser à autre chose, tu es emprisonné dans ton manque de liberté.
Bon, on part à Beyrouth avec vous, Vénus Corrigata, à présent. C'était il y a 10 ans déjà. Nous étions allés dans le quartier de votre enfance. C'était la première fois que vous y retourniez. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là?
Le souvenir de notre promenade, toi et moi, vous et moi, je dirais, dans Beyrouth. Nous avions parcouru toutes les rues. On se basait sur les décombres, sur les ruines, sur les pierres qui sont tombées, sur les maisons effondrées, pour te raconter qu'est-ce qu'il y avait avant. Puis arriver devant ma maison, la maison de mon enfance, dans laquelle s'était déroulée une histoire tragique, mon frère qui est mort d'une manière très, très, très injuste, je dirais, pour ne pas dire d'une manière... Je ne veux pas en parler. Ma voix est partie, était partie. Tu m'avais offert un jus d'orange chez un boutiquier pour que ma voix revienne. Je cherchais une maison avec des orties autour. C'était la mienne. Et je n'ai trouvé qu'un delphinia, un arbre. Et tu as attendu gentiment que ma voix revienne pour qu'on reprenne notre tournée. On a tourné presque pendant 2-3 heures dans la ville. Maintenant, je garde un bout souvenir, mais c'était très, très poignant au moment même, parce que je revenais grâce à toi, grâce à ton émission. Sinon, je n'avais pas envie de revoir la ville tant qu'elle n'était pas reconstruite. Et je ne résiste jamais à tes invitations. Alors j'y étais avec toi, on s'est promené, je prenais ton bras pour ne pas tomber sur les pierres qui jalonnaient notre chemin. Et puis c'est devenu un bon souvenir avec le temps. Parfois les choses douloureuses deviennent avec les souvenirs, maquillées de souvenirs deviennent belles.
Bon, voici un beau souvenir pour vous et pour nous tous. Voici un extrait de ce reportage très émouvant. Merci beaucoup, Vénus.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
À très bientôt.
Je suis très heureuse de retrouver la ville dans laquelle j'ai grandi. Je m'étais mariée, mais je la retrouve très changée. Nous avons derrière nous la mer qui est visible entre une église, l'église Saint-Maron, et une autre église aussi. C'est le centre, le cœur palpitant de Beyrouth. Chaque fois que je parle d'un événement de ma vie, je le situe dans un quartier. Et là, quand je descendais ici, il n'y avait rien de ce que vous voyez là. Il n'y avait pas ces immeubles, il n'y avait pas ces hôtels. Il y avait la place des martyrs, le cœur palpitant de la ville, avec les cinémas archaïques, mais c'est des cinémas. La rue Mutanabbi, où il y avait les maisons de passe. On regardait comme ça ces femmes plantureuses, blanches. Elles devaient être très blanches et très blondes, qui étaient penchées sur les balcons avec leurs seins qui débordaient des balcons. Et on était des filles de 10 ans, 12 ans, 14 ans. On fantasmait sur cette blancheur. Tout ça a été rasé. Je ne retrouve plus rien. Ce n'est pas ma ville.
Alors nous voici arrivés sur les hauteurs de Beyrouth, Vénus Corrigata.
Nous sommes sur les hauteurs de Beyrouth, sur le ring Fouad Chehab. Ce ring, on l'appelait le ring de la mort, Il divisait la ville en deux. La ville était ouest et est. C'était vraiment la place la plus meurtrière. On traverse le ring, on est assuré d'être mort.
Et on entend les cloches de l'église, là, en ce moment même.
C'est l'église Saint-Maro. C'est ce qui est beau dans cette ville, c'est qu'on peut entendre en même temps le muezzin et en même temps les cloches des églises. Il y a une telle harmonie entre les deux communautés. Il ne faudra pas que les étrangers viennent y semer la discorde.
On va aller dans un autre endroit, si vous le voulez bien.
On va monter vers Achrafi, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu mon enfance. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais y retrouver. Je vous avoue que pendant des années, je suis venue à Beyrouth, au Salon du Livre et à autre chose. Je n'osais jamais, je prenais le chemin pour aller voir qu'est-ce que c'est devenu ce quartier. Et puis je revenais en arrière. C'est un quartier pour moi pétri de douleur. Je n'osais jamais arriver jusqu'à la maison de mon enfant. Je rebousse ces chemins. Je vais le faire avec vous aujourd'hui. J'espère être plus courageuse que les fois précédentes.
On va vous accompagner, Vénus. On monte vers Achrafieh, petit à petit, Vénus Corrigata, vers la maison de votre enfance. Nous sommes dans la rue de Sodeco, dans le quartier Sodeco, c'est ça ?
Un quartier où il s'était beaucoup battu. C'était une place très meurtrière. Voilà, la rue Sassine. هذا مش ساسين هذا لا هذا عدي بصحة هلا عالساحة من النفور ننزل على اليمين يبي بوكو دو مونتيير
لا il y a des commerces, des immeubles, des bars aussi. Moderne hein, d'ailleurs.
Oui. Une ville moderne a pris la place des prairies, des vergers, des jardins, des grands jardins. Où il y avait quelques immeubles plantés ça et là. Il y avait beaucoup de terrains vagues. On pouvait jouer étant enfant. Voilà, c'est la rue Sassine, par là. Je vais pouvoir l'affronter. Voilà, nous allons pouvoir nous arrêter là où vous pouvez vous arrêter. Fi andak mahal twaqif honi. Bah du coup, non. Ya haram ki fik twaqif. Ma andak mahal twaqif. Mon Dieu, où est-ce que c'était ? Je cherche ma maison. C'est ça. Voilà. Je reconnais cette maison qui avait été construite par deux sœurs, deux vieilles filles. Ma maison était derrière. C'était, il y avait un bassin avec des poissons et une eau verdâtre. Et deux immeubles, l'un en face de l'autre, chacun comportant deux appartements. C'est derrière ce que vous voyez là. Je vais regarder à travers cette porte qui n'existait pas. Nous étions
un grillage noir, oui.
Tout ça a été construit à la place de ma maison.
C'est un immeuble.
Dans cette maison qui était à gauche, c'est là que j'ai grandi. Il y avait des orties autour de la maison. Il y avait un jardin d'orties. Et ma mère, tous les soirs, une fois fatiguée des travaux de ménage, s'asseyait sur le seuil et disait « Demain, je leur ferai un sort. Demain, je les arracherai. » N'a jamais pu les arracher, n'a jamais eu le temps de les arracher. Et je vois qu'il y a la seule chose qui a survécu au bombardement, à la guerre, c'est ce delphinia, cet arbre. C'est le seul que je reconnais. Il n'y a plus d'orties. Les orties sont parties. Voilà. Ma mère peut dormir tranquille dans sa tombe, Abcherri.
Voilà, on est là, on va vous laisser regarder cet endroit
j'ose
que vous
regarder
retrouvez.
Maintenant, grâce à vous, vous êtes avec moi, j'ose, pendant des années, je n'ai pas osé.
Une dernière question, c'est un peu une revanche finalement d'arriver à venir ici pour vous.
Oui, c'est une revanche. C'est vraiment piétiner le sol où j'ai eu mal, où j'ai eu peur, où j'ai été terrorisée, où quand je revenais de l'école qui est un peu derrière nous, à notre droite. Quand je revenais deuxième de la classe, je savais que j'allais mécontenter mon père et qu'il allait être très coléreux. Je devais être toujours la première de la classe, sinon je me disais, pourvu qu'une voiture m'écrase sur la route avant d'arriver à la maison. Un moment, je vous l'avoue maintenant, où j'attendais dans la nuit. J'étais au seuil de la maison, sur le seuil de la maison, et je me disais, pourvu qu'il ne rentre pas, j'ai souhaité souvent sa mort. Que Dieu me pardonne.
Merci beaucoup, Vénus Corrigata. Merci beaucoup d'être venue sur les lieux de votre enfance. C'est beaucoup d'émotions pour nous également. Merci beaucoup, Vénus.
Voilà pour cet extrait de reportage à Beyrouth avec Vénus Corrigata. Le dernier livre de Vénus, Demande à l'obscurité, recueil de poésie, est sorti début mars chez Mercure de France. Et son roman sur Marina Tsvetaeva sortira en poche chez Folio au mois de juillet. Allez, le voyage continue. Vous prendrez bien un petit verre de caipirinha. C'est autorisé en ce moment. Profitez-en. Voici le nouveau titre de Jojoa avec Lieutenant Nicholson dans la librairie francophone.
Pas de soleil.
Ça caille, pas de soleil.
Un fait d'hiver.
Deux pullovers.
Trois, c'est l'ivresse. Ça caille, pas de soleil. Ça caille, pas de soleil. Ça caille, pas de soleil.
C'était Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Caipirinha et un hommage à leur façon à la musique brésilienne.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Albert Uderzo nous a donc quitté le 24 mars dernier, un séisme dans le monde de la bande dessinée. Jean-Yves Ferry et Didier Conrad ont repris le flambeau d'Astérix sous le regard bienveillant du grand Albert. Et le nouveau scénariste a accepté de témoigner pour la librairie francophone en exclusivité radio.
Cours, Astérix ! Cours !
Bonjour Jean-Yves Ferry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Albert Uderzo. Vous faisiez confiance, il vous avait donné les rênes d'Astérix. Au final, on en parlait lors de la sortie de La Fille de Vercingétorix, ensemble en studio. C'était un personnage à lui tout seul. Il vous avait vraiment fait confiance totalement.
Je crois qu'au départ, Albert était quasiment persuadé que personne pourrait faire reprendre, en fait, je crois. Hein. J'ai cette petite conviction.
C'est vrai. Pense.
Mais bon, quand il a vu qu'on se donnait, que le résultat était en tout cas solide et sérieux, il a commencé à nous encourager. Et il a jamais cessé après de nous encourager à sa façon un peu pudique.
Vous avez des anecdotes avec lui, je sais, parce que vous l'avez vu plusieurs fois. Il vous a guidé, il vous a accompagné, il vous a un petit peu bousculé aussi parfois. Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui d'Albert Uderzo dans l'échange que vous avez eu directement avec lui?
Là, justement, la grande pudeur, en fait. C'est pas quelqu'un qui nous a fait de grands discours, c'est pas quelqu'un qui a mis une pression sur nous, quoi. C'était à chaque fois des échanges assez simples sur des petites choses de la vie. Il aimait aussi nous raconter des histoires, des anecdotes sur l'âge d'or. Hein. C'était quand même un pionnier de la bande dessinée. Lui, il a accompagné la bande dessinée, on va dire presque depuis son éclosion en France jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc il connaissait plein de dessinateurs historiques et on aimait bien entendre des histoires sur Franquin, sur Maurice, sur tous ces gens-là.
Il y en a plein des histoires, il les racontait d'ailleurs. Quand on était avec lui à Neuilly, on avait fait un grand entretien. Il était très fier hein, de voir Jean-Yves Ferry et Conrad reprendre Astérix. Ça le rassurait beaucoup. Vous avez eu ce sentiment-là d'ailleurs de le rassurer aussi?
J'ai eu ce sentiment en fait lors de notre dernière rencontre parce que Albert était déjà fatigué. Bon, la rencontre était assez émouvante et ça nous a fait plaisir à Didier Conrad et à moi parce qu'il a été très chaleureux. C'était très émouvant en fait. Il a pris ma casquette, je me souviens, il se l'est mise sur la tête. J'ai fait une photo historique que je garde précieusement. Et voilà, c'était à la fois quelqu'un à ce moment-là d'affaibli, mais quelqu'un qui voulait toujours passer de l'énergie.
Oui, c'est ça, exactement ça. Une générosité incroyable aussi, je peux en attester. Vous avez un souvenir de lecteur, Jean-Yves Ferry. On parlait justement du fait que la critique vous a un peu attaqué, injustement d'ailleurs. On peut réécouter d'ailleurs cet entretien ensemble sur le site de la librairie francophone. Lui aussi avait été attaqué pour Le Grand Fossé. Quand il a fait Astérix tout seul, ça n'a pas été simple pour lui. Il y a des albums qui vous ont marqué, d'Uderzo tout seul?
Ben justement, on l'attendait un petit peu lors du premier album et on avait tous été étonnés du fait qu'il garde le cap sur le début. En tout cas, il s'était efforcé de rester tout à fait dans l'esprit d'Astérix. Mais après, sur ses faiblesses scénaristiques, il l'avouait lui-même. Hein. Il disait qu'il n'était pas un scénariste né, quoi. C'est d'autant plus courageux ce qu'il a fait parce que il a pris les rênes du personnage et il était en droit de le faire parce que moi, je persiste à croire qu'il est vraiment la moitié du tandem et que sans lui, Astérix, ben, on l'aurait jamais vu comme ça, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Yves Ferry.
Merci à vous.
Merci infiniment. On salue aussi Didier Conrad, évidemment, les deux auteurs d'Astérix aujourd'hui. À bientôt, Jean-Yves.
Merci, au revoir.
Et Uderzo avait accordé un long entretien à la librairie francophone en 2013, au moment où Ferry et Conrad reprenaient Astérix. Un moment exceptionnel à retrouver sur notre site internet. Nos libraires sont fans d'Astérix, bien sûr. Ils vont aussi rendre hommage à Albert Uderzo. Au Canada, Josiane Letourneau, Astérix et Uderzo sont de vrais phénomènes.
Ah ben oui, Astérix a conquis le Québec depuis très longtemps et ça continue. Chaque album est attendu avec beaucoup d'impatience et les ventes sont toujours excellentes et je dirais même exceptionnelles. D'ailleurs, cette série est tellement que lorsque Tristan Demers a fait paraître son livre Astérix chez les Québécois aux éditions Urtubiz, nombreux sont les clients qui ont cru, follement excités, à un nouvel opus. Et ce livre en lui-même témoigne non seulement de l'amour indéniable qu'on a pour Astérix, mais d'une forme certaine d'identification culturelle et politique même, avec ce village qui résiste encore et toujours à l'invasion romaine.
Oui, je me souviens de cet Astérix chez les Québécois de Tristan Demers, qui avait joué l'ambiguïté d'ailleurs, il était malin. Merci beaucoup Josiane. Dominique pour la Suisse, c'est la traduction d'Astérix en suisse-allemand qui a marqué votre esprit.
Oui, absolument, parce que faut savoir qu'en Suisse, il y a quand même 17 cantons sur 26 qui parlent suisse-allemand, et ça fait 17 dialectes différents. Et à Berne, où je travaillais avant d'être libraire, Mes collègues connaissaient très très bien les aventures d'Astérix et ils étaient extrêmement fiers que ce soit le dialecte bernois qui ait été choisi pour une traduction en suisse-allemand. Parce que, ils me disaient, on est les seuls à avoir de l'humour, c'est pour ça. Et donc pour moi, c'est une découverte à l'époque le nombre de traductions qui ont été faites d'Astérix.
Incroyable, hein, plus de 110 traductions je crois à travers le monde. Astérix est la BD la plus traduite dans le monde. Tintin vient juste après. Déborah Damblon en Belgique, une petite anecdote de libraire. Déborah, ça m'étonne pas de vous, tiens. Un truc personnel sans doute.
On se connaît, hein, Emmanuel, on se connaît. Alors, c'est ça se passait en été, vous voyez, la ville était vide, donc on faisait la permanence avec une de mes collègues à la librairie, et on s'ennuyait un peu, il faut bien le dire. Comme on était qu'à deux, on mangeait en alternance, et on lisait à tour de rôle le même Astérix. Et puis, comme on n'avait rien à faire l'après-midi, ben on se rejouait tous les dialogues qu'on avait appris par cœur. Par exemple, « Ep là-bas, quo vadis, mon gaillard ?» Et des années après, on ne peut pas se recroiser sans partir dans des fous rires parce qu'on repense à ça.
Ep là-bas, quo vadis, mon gaillard. C'est pas mal, ça. Bon, merci pour cette anecdote et ce sourire, Déborah. Un autre grand artiste a accepté de se confier dans la librairie francophone. Bonjour, Enki Bilal.
Bonjour, bonjour.
La disparition d'Albert Uderzo a touché beaucoup de monde, vous y compris. Quel lien aviez-vous avec Albert Uderzo?
Albert Uderzo, je le connaissais un peu, je l'ai connu relativement peu de fois, mais je crois qu'une des premières fois que je l'ai vu, c'était dans les locaux de Pilote, donc il y a très très longtemps, au début des années 70, et j'avais été impressionné, parce que je connaissais déjà René Goscinny, donc son scénariste, parce qu'il m'avait accueilli dans Pilote, et j'avais quand même été très touché, très très impressionné par son dessin réaliste dans Tanguy et la Verdure. Et ça, c'est l'un des dessinateurs qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée avec Gire, avec Hubinon, avec Raymond Poivette, etc. Tout ça, c'était des gens de Pilote. Bon, c'est quoi? C'est un menhir de la bande dessinée franco-belge. On ne peut même pas parler de la reconnaissance internationale, parce qu'Astérix est devenu international. Mais Uderzo avait la sensibilité, l'intelligence de la mise en scène, et puis de rendre des personnages attachants. Moi, j'ai une passion particulière pour Obélix. Alors, il faisait partie de notre vie à nous tous. Il était devant nous, il était là avant nous, et donc qu'il disparaisse aujourd'hui, ça me paraît un peu surréaliste.
C'est vrai qu'on a toujours l'impression que ces artistes-là ne disparaîtront jamais. On a eu cette impression-là avec Moebius, où vous citiez Jean Giraud, Moebius, qui a disparu aussi. Alors c'est vrai que effectivement, vous citez aussi Gottlieb. Alors Gottlieb, Moebius, Uderzo, Claire Bretéché récemment, ce sont des univers très différents, dans des registres très différents, qui finalement font disparaître un pan de la bande dessinée.
Exactement, exactement. Et c'est quelque part, je ne suis pas sûr qu'il y ait la relève pour ça dans la bande dessinée actuelle, hein, qui est plus qui est frappée par un problème économique. Hein. Il est très difficile de vivre de la bande dessinée aujourd'hui, et donc on a du dessin qui est du dessin minimaliste en général, du noir et blanc, ce qu'on appelle le roman graphique, avec le dessin passe au second plan, et on n'a plus des univers, on n'a plus des artistes aussi puissants que ceux qu'on vient d'évoquer.
Albert Uderzo, vous dites que ça a été une influence pour vous. Quand on pense à Moebius, l'influence, là, on la voit tout de suite dans votre travail. Mais en quoi Albert Uderzo a influencé votre travail, en dehors du fait que, dans votre œuvre, il y a aussi des irréductibles créatures, avec des résistants aussi?
C'était pas une influence qui était due à un choc visuel, à quelque chose de particulier. C'était la qualité de son travail de dessinateur. C'était la qualité de sa mise en scène. Et surtout, ce qui me donnait envie, d'arriver à une forme d'excellence presque, de pureté, parce que son dessin, aussi bien réaliste que humoristique, est d'une très très grande pureté et surtout d'une très grande aussi efficacité dans les expressions, dans les attitudes. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes dans la bande dessinée. Et donc c'est plutôt cet ensemble de savoir-faire qui me bluffait littéralement.
Et sa capacité aussi, Didier Conrad l'a dit dans la librairie francophone, sa capacité à pouvoir remplir les cases avec des scènes très chargées, très élaborées. Alors Gottlieb lui aussi remplissait les cases à sa façon, il avait même créé la coccinelle pour remplir le bas de la case. Mais Uderzo, c'est vrai que son dessin est très précis et très 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 chargé. Il envahit toute la case.
Exactement. Gottlieb, son but, c'était de la démonstration, c'est-à-dire il chargeait parce qu'en fait c'est un Robert Gabarac, hein, c'est l'idée de,
ouais, c'est ça.
De disséquer le monde, etc. Alors que Uderzo, lui, il composait des tableaux qui donnaient une vie littéralement, par exemple au village d'Astérix et d'Obélix. Et ça, c'est ce qui marque le travail des très grands, quoi.
Bon, merci beaucoup Enki Bilal.
Merci
infiniment d'être fidèle à la librairie francophone et pour cet hommage à Albert Uderzo, à qui on pense beaucoup, qui est parti à 92 ans et qui laissera comme ça des traces toute notre vie finalement et des souvenirs indéfectibles.
Absolument.
Merci Enki, à bientôt.
Merci Emmanuel, au revoir.
Et on ne peut pas faire cette émission de reprise sans évoquer Manu Dibango. Vous l'entendrez prochainement, nous l'avons reçu tant de fois ici et ailleurs. Nous lui rendrons hommage cet été dans la librairie francophone estivale. En attendant, voici son mythique Sol Makossa qu'il avait revisité en 2011. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Namosoma.
Get up, what's the old move? Can you feel it? Yeah, that's the old school. Saxophone with the jazz solo. That's right, it's my new Dibango. Everybody put your hands in the air. Ladies, shake it like you don't care. That's right, Cameroon's in here. Africa's taking over this year. The grown and sexy. Go mama, bring it closer. Give me some of your mama closer. Two step from the left to the right. Keep it up and we can do this all night. Let's dance like we're going insane. Make your body pop like you're on Soul Train.
C'était Manu Dibango avec Sol Makossa 2.0 et nous rendrons donc hommage à Manu Dibango très prochainement. Chaque semaine, nous donnerons la parole à un éditeur. La librairie francophone renoue le lien avec la chaîne du livre, les libraires, les lecteurs, les auteurs et donc les éditeurs. Bonjour Isabelle Gallimard.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes administratrice des éditions Gallimard et Flammarion, directrice du Mercure de France. Votre frère Antoine Gallimard s'est inquiété dans la presse de la possible vague de faillite chez les éditeurs et chez les libraires. Gallimard perdrait même en ce moment 90% de son chiffre d'affaires. Vous confirmez ça ?
Oui, c'est exact. Donc effectivement, on s'inquiète beaucoup pour le sort de nos amis libraires et aussi le sort des petits éditeurs qui risquent d'avoir beaucoup de mal à pouvoir régler leurs échéances. Et donc, le gouvernement a déjà octroyé une aide substantielle de 5 millions d'euros, mais je pense que ce ne sera pas suffisant et qu'il faudra encore aider encore un peu plus les libraires et les petits éditeurs pour qu'ils passent ce cap difficile qui risque de durer quand même quelques mois.
Et la chaîne du livre se mobilise en ce moment. Isabelle Gallimard, comment Mercure de France, qui fait donc partie de Gallimard, envisage l'avenir alors ?
Alors écoutez, on est amené en ce moment à réfléchir bien sûr à la sortie de cette épidémie, à la réouverture, on espère, des librairies de façon à ce que on considère que les livres sont un peu des produits de première nécessité. Dans la mesure où, par exemple, les commerces de vin sont ouverts, pourquoi ne pas essayer de réfléchir à une réouverture des librairies, comme l'avait à un moment donné évoqué Bruno Le Maire,
oui,
en gardant bien sûr les espaces de confinement.
Ministre de l'économie en France, hein, Bruno Le Maire.
Voilà. Et en faisant en sorte que les lecteurs puissent venir acheter les livres dont ils ont envie, parce que bien sûr, il y a les livres qu'on peut commander par Internet, mais c'est quand même une toute petite possibilité. Mmh. Et on voit, ça a considérablement augmenté en courant de ce mois de mars, mais ça n'a pas d'équivalent par rapport à la vente de livres en librairie.
Oui, il faut des initiatives comme celle-ci. Certains libraires ont organisé des ventes à emporter, on en parlait tout à l'heure, comme des drives, pour reprendre un mot anglophone. Et effectivement, les magasins de vin en France, les magasins de chocolat aussi sont ouverts. Il faudrait, selon Antoine Gallimard, réduire d'au moins un tiers les sorties de la prochaine rentrée littéraire. Pourquoi une réduction ? Pourquoi un tiers ?
Un tiers parce que, en fait, tous les titres qui devaient sortir en fin mars, avril et même mai, vont forcément être reportés. Ils ne vont pas tous être reportés en juin, parce qu'en juin, on est très vite à l'été. Donc, certains de ces titres, et notamment des titres peut-être à fort tirage, vont être reportés en septembre. Donc, notre crainte, c'est que les livres peut-être plus fragiles, enfin, en tout cas, encore moins d'audience au départ, risquent d'être noyés par toute cette avalanche de titres qui vont apparaître qui vont paraître en septembre.
Bon, on vous a demandé quelque chose de beaucoup plus positif, Isabelle Gallimard, de choisir un classique dans votre maison d'édition et chez Mercure de France. Il y en a des classiques, ou encore chez Gallimard, hein, vous avez le choix, on vous a laissé la liberté. Quel livre donc publié par votre maison d'édition historique conseillez-vous de lire ou de relire en ce moment, Isabelle ?
Alors écoutez, je conseille de lire ou de relire un classique du Mercure de France, c'est Gros Câlin, de Romain Gary, qu'il avait publié bien sûr sous le nom d'Émile Ajar. Tout le monde connaît La vie en soi, qui a eu le prix Goncourt, mais les gens connaissent peut-être moins Gros Câlin. C'est l'histoire d'un homme qui est seul, qui vit sa solitude, et il s'est pris d'affection pour un python. Alors, Gros Câlin, en fait, c'est un python. Et alors, c'est un livre très ironique, plein de verve et de saveur. Il y a des scènes incroyables où ce python s'enroule autour de cet homme, et cet homme a l'impression que voilà, qu'il y a une personne qui l'embrasse, qui le prend dans ses bras, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Gros Câlin.
Conseil inattendu, effectivement, avec ce livre de Romain Gary, Gros Câlin. Ça tombe bien, on a tous besoin de gros câlins en ce moment. Merci Isabelle Gallimard.
Merci Emmanuel Carade.
Merci d'être intervenu à distance, donc, dans la librairie francophone. Je vous fais un gros câlin, Isabelle, et surtout faites attention à vous.
Merci à vous aussi.
À bientôt.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et un autre voyage à présent dans cette émission, avec une escale à Liège en Belgique, avec Benoît Denis, spécialiste de Simenon et de la littérature francophone de Belgique. Il est aussi directeur du centre d'études Georges Simenon. Bonjour Benoît Denis.
Bonjour Emmanuel Kéran.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Alors on est ici à Liège, voilà, dans le quartier de Simenon. On va se balader ensemble, il y a plein de lieux à découvrir et plein d'éléments aussi biographiques à raconter.
Absolument, donc nous partons ici de la place de l'Hôtel de Ville,
Mais nous sommes surtout en face de la maison natale de Simenon, de l'appartement que ses parents occupaient lorsqu'il est né en 1903. Le 12 février 1903, la légende veut qu'il serait né un peu après minuit le 13.
C'est déjà un roman, sa vie.
Voilà, comme un roman.
Bon, on est sur la place du commissaire Maigret, ça ne s'invente pas parce que Liège est vraiment envahi par la mémoire de Simenon. Il y a une statue d'ailleurs, un banc avec une statue du commissaire Maigret.
C'est ça, oui. Alors en effet, bon, pour une ville comme Liège, évidemment, avoir un écrivain de la stature de Simenon, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc en effet, la ville a eu le souci de faire un itinéraire que les visiteurs peuvent suivre sur les pas de Simenon, de son enfance et de son adolescence, puisqu'il faut bien savoir que Simenon a quitté Liège à 19 ans,
oui.
Et que donc la ville de Liège, pour lui, c'est la ville de l'enfance et de l'adolescence, pas du tout de l'âge adulte.
Donc, alors, voilà. Alors juste derrière, là, pas très loin d'ici d'ailleurs, vers la place de l'hôtel de ville, il y avait un journal,
oui.
La Gazette de Liège, qui était le grand quotidien local. Et Georges Simenon, à la sortie de la guerre, en 1919, va entrer comme ça, au culot, dans les bureaux de la Gazette de Liège, et il va demander un poste de reporter. Ce qu'il va avoir à l'âge de 16 ans, 15 ans,
16 ans, oui. Alors ça, c'est tout à fait Simenon, hein. C'est quelqu'un qui sait y aller au culot, en effet, et mettre le pied dans la porte. Donc il va d'abord faire la rubrique des chiens écrasés. Donc. Mais comme c'était quelqu'un qui avait une bonne plume, il a fini par se faire confier une rubrique de petits billets d'humeur, qu'il signait du pseudonyme de Monsieur Lecoq, et dans lesquels il écornait un petit peu les personnalités liégeoises, un certain nombre de notabilités.
Des militaires aussi. Il fait son service militaire.
Ici, tout près.
Bon, on est sur ce pont, on y arrive là justement, avec une péniche énorme là qui est en train de passer. Péniche de transport, de cargaison. Et la Meuse, donc, est sous nos pieds, là, exactement, Benoît.
Oui, exactement. Et donc, vous parliez de péniche. On le sait bien, dans l'univers de Simenon, le milieu des mariniers, des bateliers, des péniches, c'est extrêmement important.
Et oui.
C'est un monde qui l'a toujours beaucoup fasciné, à tel point, d'ailleurs, qu'au début de sa carrière parisienne, quand il a commencé à publier les Maigret, il vivait sur un bateau.
Et là aussi, il y a une légende, parce qu'il dit que le commissaire Maigret, ce personnage qui apparaît dans son œuvre d'abord comme ça, petit à petit, il serait né... On va laisser passer l'ambulance. C'est très bruyant, hein.
C'est
la police, c'est pas une ambulance. Justement, ça tombe bien. On parlait du commissaire Maigret. Donc, il y a cette légende qui dit que peut-être que son personnage serait né dans un port des Pays-Bas.
Oui, à Delfzijl, où une statue, d'ailleurs, a été érigée pour commémorer la chose. Le moment où le personnage lui est apparu, ou sans doute le patronyme aussi lui est apparu, ne correspond pas au premier des romans de Maigret officiellement publiés sous le nom de Simenon. En réalité, c'est très vraisemblablement un de ses derniers romans populaires mettant en scène un personnage de détective qui s'appelle Maigret, qui a été composé là-bas. Mais enfin, toujours est-il qu'il avait trouvé à ce moment-là la formule, cette formule policière avec Maigret, qu'il va ensuite aller soumettre à l'éditeur Artem Fayard, qui sera d'abord un peu réticent, qui exigera de lui qu'il lui fournisse 6 romans d'avance, ce que Simenon fera très rapidement, évidemment, comme il savait le faire. Et alors là, la série sera lancée, et sera lancée avec un immense succès immédiat.
Voilà, on quitte le pont des Arches, et on est outre Meuse, là.
Voilà, c'est on ça, entre hein. dans ce quartier
d'Outre-Meuse. Alors on va traverser, là, du coup... C'est en 1922 que Georges Simenon va partir à Paris, vivre une autre vie au service de la bourgeoisie tout d'abord, puis comme nouvelliste pour la presse, fréquentant ensuite le milieu littéraire. Il fait ses armes et puis il installe donc son personnage de Maigret. Et puis après la guerre, il part en Amérique. Il installe sa famille dans un village du Québec et lui va continuer à écrire depuis New York.
Oui, absolument. Donc il s'installe très provisoirement au Québec. Il se rend à New York parce que c'est à partir de là qu'il souhaite aussi réorganiser l'ensemble de la gestion de son œuvre littéraire. Et c'est à ce moment-là qu'on lui présente comme interprète une jeune Canadienne parfaitement bilingue qui s'appelle Denise Ouimet, dont il va tomber immédiatement éperdument amoureux. Ils vont vivre une passion amoureuse extrêmement intense. Et ce sera sa seconde épouse qui lui donnera 3 enfants. Voilà, et on se dirige tout doucement vers l'entrée de ce petit quartier de Rothur, qui est en fait une venelle.
Ah oui, c'est une ruelle pavée,
voilà,
avec un grillage en
un peu
fer
sommaire,
forgé,
oui,
un peu sommaire.
Alors aujourd'hui, c'est un quartier qui paraît très propre dans son côté un peu typique, mais à l'époque, c'était un quartier là d'extrême misère. Hein.
Eh oui. Alors c'est ce qu'il dit, justement, voilà, dans un livre qui s'appelle « De la cave au grenier » paru en 1977, que Georges Simenon dit « Je crois qu'il n'y a qu'une ville au monde, Liège, ma ville natale, qui s'enorgueillit d'avoir officiellement depuis des siècles une rue Rothur. C'est une rue étroite, probablement médiévale. Les maisons y sont minuscules, crépies à la chaux. Lorsque j'étais enfant et jeune homme, une sorte de ruisseau coulait au milieu de la chaussée, charriant non de l'eau de source de la ville, mais de l'eau de lessive, de vaisselle et même des cabinets. Les habitants n'avaient aucune honte, au contraire, de dire qu'ils habitaient en Rothur, car on disait en Rothur, comme on dit en France, en Avignon. »
Et donc, il a vu de très près la chose. Et à Paris, il a retrouvé ça à l'époque rue Mouffetard.
Alors c'est vrai que la rue est étroite, c'est vrai que les maisons sont petites, c'est vrai que les plafonds des maisons paraissent bas. Et on imagine très bien à l'époque, avant que ce soit refait comme c'est là, avec des restaurants, qu'il y avait du linge au balcon et qu'il y avait des lessives dans la rue. Et il meurt en Suisse le 4 septembre 1989. Il sera passé par la Belgique, lieu de sa naissance, par la France, lieu de la réussite, par le Québec, lieu de la résurrection, et la Suisse, lieu dans lequel il finira sa vie. C'est très francophone, c'est très éclectique chez Simenon.
Oui, mais en effet, c'est quelqu'un qui n'a dans le fond été à Paris que le temps de se faire une place.
C'est ça. Merci beaucoup, Benoît.
Merci beaucoup, et c'est un plaisir.
On quitte la Belgique et Liège pour la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. Pour conclure, un coup de gueule en Suisse pour cette reprise, Dominique Bressou. Allez-y, lâchez-vous.
Toujours. Alors moi, c'est un coup de gueule vraiment fort contre la manie de certains auteurs d'insérer des mots en anglais, en allemand ou en italien, alors qu'ils sont parfaitement traduisibles en français. Et c'est très très frappant pour le dernier livre de Maggetti. C'est un excellent livre avec une figure féminine très forte, mais il y a au moins un mot en italien à chaque page, du genre zio pour oncle. Et je trouve ça un peu gênant.
C'est un peu gênant, vous avez raison. J'ai déjà fait la remarque d'ailleurs à des auteurs québécois qui glissent des mots anglais et certains à outrance. Et ça, franchement, c'est agaçant, vous avez raison. Je m'associe à votre coup de gueule, Dominique. Cap sur la Martinique, Anne-Rosine Vosa avec un coup de cœur dans le rayon des romans.
Oui, mon coup de cœur va pour le service des manuscrits d'Antoine Lourin aux éditions Flammarion. J'ai été réellement absorbée par cette intrigue remarquablement bien menée, avec une tension de plus en plus forte qui capture le lecteur. Et j'ai aussi aimé ce roman car j'ai trouvé vraiment original de la part de l'auteur de prendre le milieu de l'édition comme cadre de son histoire.
Et c'est le service des manuscrits donc d'Antoine Lorrain aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à Anne. Déborah Damblon, connaissant votre douceur, je suis sûr que vous avez un coup de cœur en cette période difficile.
Bah oui, il faut adoucir les choses, hein, Emmanuel. Alors j'ai un gros coup de cœur pour Zebraska qui vient de sortir en poche, Zebraska de Isabelle Barry. Ça se passe dans le futur, c'est un garçon qui trouve un livre qui sont les mémoires de son aïeul. Et son aïeul, ben, il est comme lui, c'est un zèbre. Vous voyez Emmanuel, un zèbre, un HP, un différent. Bref, ces gamins à côté de la plaque. Alors si le sujet vous parle, si vous avez envie d'en parler, Zebraska, c'est le livre qu'il vous faut.
Et c'est aux éditions J'ai lu. Merci Déborah. Josiane Letourneau pour le Canada. Un coup de gueule ou un coup de cœur?
Ben, j'ai envie de dire que c'est un coup de gueule qui vient du cœur. Alors je n'apprends rien à personne si je dis que c'est inquiétant pour tout le monde en ce moment. Vigilance et peur se confondent pour faire parfois place à une chasse aux sorcières qui n'est pas souhaitable. D'où cet appel à la solidarité que je fais aujourd'hui, même si elle est là en grande partie. Devant ça, j'ai simplement envie de dire que la majorité d'entre nous sommes convaincus que la seule façon de s'en sortir la tête haute, c'est en maintenant les liens que nous avons, que nous continuerons d'avoir après et pour lesquels nous avons tous travaillé si fort. Alors c'est ce que j'avais envie de dire.
Et c'est le mot de la fin qui convenait. Bravo, merci beaucoup Josiane. Merci à toutes les quatre d'être intervenues tout au long de l'émission. On va faire à l'ancienne comme avant, rappelez-vous au début de l'émission. Au revoir à tous.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir.
Merci à vous, merci à toutes.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Alexandre Chénet. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France et l'implication de la direction de France Inter. Jean-Marie Félix en Suisse pour la RTS. René Mikils en Belgique pour la RTBF. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. À la semaine prochaine pour un nouveau grand voyage francophone et des invités confinés. Merci d'être fidèle à la librairie francophone et n'oubliez pas de soutenir les librairies indépendantes. C'est un acte solidaire et essentiel en ce moment. Faites attention à vous. Bon week-end à tous.